Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Bonjour Yves-Marie Berset.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, historien moderniste, et dans votre dernier ouvrage intitulé « Lorette au XVIe et XVIIe siècle, histoire du plus grand pèlerinage des temps modernes », vous évoquez la petite cité de Lorette sur l'Adriatique et vous évoquez sa relique extraordinaire. Cette relique, ce sont les murs de la maison que la Vierge Marie habitait à Nazareth et où elle reçut l'Annonciation, une petite maison que deux anges ont apportée, dit-on, une nuit à la toute fin du XIIIe siècle en Italie, à Lorette. Parmi la cohorte innombrable des pèlerins, on découvre les noms de Montaigne, Galilée, Descartes. On y relève plusieurs fois des émissaires des rois de France et des reines de France. Anne d'Autriche se tenait, vous le dites précisément, se tenait pour redevable envers la Madone des Marches pour la venue au monde du futur Louis XIV. Yves-Marie Berset, lieu de dévotion catholique, certes, mais aussi enjeu politique pour la France, avez-vous écrit. Pourquoi les rois de France à Lorette ?
Alors, les rois de France ont suivi la piété catholique de leur temps, de tous les souverains catholiques des pays, surtout du pourtour de la Méditerranée. La dévotion de Lorette tient, comme vous l'avez dit, à une relique fabuleuse, extraordinaire, qui est sans aucune mesure par rapport aux autres objets de dévotion qui peuvent être diffusés dans l'ensemble de la catholicité, puisque c'est supposé être les murs de la maison de la Vierge à Nazareth, les murs de la maison où serait apparu l'ange Gabriel pour lui annoncer l'incarnation, la venue du Sauveur. C'est donc beaucoup plus que Rome, qui n'est, on peut dire, que le tombeau du premier apôtre, plus que les morceaux de la vraie croix ou des instruments de la Passion dont des bribes seraient dispersées à travers des lieux de culte, des cathédrales au cours du Moyen-Âge, et qu'ils soient plus ou moins certains, plus ou moins vénérés. Là, on a une relique la plus proche, la plus solennelle, avec la venue du Christ en ce monde. Alors voilà qui explique cette extraordinaire dévotion, le développement de ce culte. Alors, la tradition veut que, comme vous l'avez résumé, ce sont les anges qui auraient apporté, à la fin du XIIIe siècle, cette relique sur les rives de l'Adriatique. Comment tel événement est-il vraisemblable ? Eh bien, en 1291, tombent les dernières places chrétiennes de Terre Sainte, Saint-Jean d'Acre. Et il y a une débâcle et des centaines, des milliers de chrétiens fuient la Palestine, fuient la Terre Sainte. Et on a la certitude que beaucoup de navires ont emporté des souvenirs, des reliques, des bribes, des pierres, des monuments de Terre Sainte. C'est dans ce contexte que le transfert de murailles cerclées de fer est tout à fait matériellement et idéologiquement tout à fait possible. Et on a un certain nombre de textes qui ont été visités, étudiés plus récemment par les savants médiévistes et par les archéologues qui donnent, je dirais, une sorte de, non pas de certitude, mais de confirmation de la tradition la plus ancienne. Ce qui reste à explorer, ce qu'en vérité on ne saura jamais, c'est pourquoi, entre la fin du XIIIe siècle, arrivée donc venue de la relique, et puis le courant du XVe siècle, Lorette, le petit site de Loretto, à côté de Recanatis, au bord de l'Adriatique, tout près d'Ancône, Pourquoi ce site n'a pas été plus cité? C'est surtout à la fin du XVe siècle que les papes lui donnent un retentissement mondial, et avec la dynamique particulière de l'imprimerie, effectivement, c'est à l'étendue du monde et du monde catholique de ce temps qu'appartient la diffusion du culte, puisque on a cette citation, on sait que en 1493, les marins de Christophe Colomb, revenant du premier voyage en Amérique, au cours d'une tempête au mois de février dans l'Atlantique, implorent le secours de la Vierge de Lorette. C'est donc l'idée là que, d'ores et déjà, cette extraordinaire relique est vénérée au-delà des mers. Alors, les papes vont, surtout Jules II au début du XVIe siècle, Sixte Quint à la fin de cette même époque, vont accorder des privilèges, des moyens considérables pour édifier une basilique et puis attirer autour le concours des meilleurs artistes, des sculpteurs, des architectes, des peintres et aussi des musiciens, puisqu'il y a très tôt, dès 1520, des choristes qui sont attachés à la basilique et qui chantent les litanies de la Vierge. Montaigne en 1581, Descartes en l'hiver 1623. On n'a pas de date très précise. Il témoigne, je dirais, de l'adhésion unanime de tous les fidèles catholiques à ce culte extraordinaire dont l'âge d'or s'étendrait au XVIe et XVIIe siècle. Il est vrai que au-delà, au XVIIIe siècle, avec la montée d'une irreligion et d'une critique plus rigoureuse des aspects miraculeux de la foi, entraîne une désaffection relative de certaines élites, qui peut-être est plus accusée encore de nos jours. Mais il reste que on a toujours, aujourd'hui même, avec la venue de Jean-Paul II, de Benoît XVI, un centre de rassemblement catholique étonnamment prestigieux, quelles que soient les critiques que l'on puisse apporter sur l'authenticité de la relique.
Ce centre catholique était aussi un centre connu, vous l'avez dit, de toute l'Europe, mais il apportait, en tant que Notre-Dame de Lorette, protectrice des femmes et des mères, la possibilité de peut-être apporter des enfants aux mères qui étaient en mal d'enfants. Et c'est comme ça qu'on arrive à rejoindre nos rois de France.
L'enjeu que j'ai essayé de poursuivre dans ce livre, c'est de connaître, de reconstituer les émotions, les espérances, les attentes intimes, secrètes, des fidèles, le contenu de leur cœur. Alors, bien sûr, c'est une sorte de gageur, mais si l'on suit les textes, si l'on fait une sorte d'exploit d'érudition toujours plus intense, on peut arriver à essayer de deviner quels étaient les sentiments, les espérances de ces fidèles. Et je ne sais pas si j'y suis parvenu, mais essayer de faire donc une histoire de l'intimité de la piété, c'est cela que j'ai cherché.
Mais vous avez tout à fait réussi, parce que le sentiment religieux, l'âme religieuse palpite. Et très silencieusement, quand on vous lit, on marche aussi un peu comme les pèlerins.
Alors, ces pèlerins venaient par dizaines, par centaines de milliers, spécialement au grand jour de fête mariale, c'est-à-dire, bien sûr, le 15 août, et puis la Notre-Dame de Septembre, la Notre-Dame d'hiver, et aussi pour la fête dite de la Translation, qui commémore l'anniversaire de la venue supposée angélique de la relique, dans la nuit du 9 au 10 décembre 1291.
Ça paraît logique, parce que c'est tout de suite après la fête de la Vierge, le 8 décembre.
Oui, oui, elle suit. Mais elle ne se confond pas.
Hein. Non.
C'est une fête différente, la fête de, on dit, de la venue. Effectivement, parmi les motifs des prières, à la Vierge libératrice s'adresse, par excellence pourrait-on dire, les femmes qui veulent être libérées de la stérilité ou de la désaffection de leurs époux, de l'attente d'une succession pour une princesse ou pour une reine. On a donc une nuance, il s'agit intensément d'un pèlerinage féminin où toutes les femmes, qu'il s'agisse de reines ou de pauvres filles d'Italie centrale, vont chercher, vont prier, vont attendre d'être exaucées. Les reines de France ont adressé des prières. Les rois de France ne sont jamais venus personnellement à Lorette. Mais, et c'était l'usage des grands personnages du temps, d'envoyer un procureur, une sorte de député de leur piété qui était chargé de faire le pèlerinage à leur place et de cheminer souvent pieds nus, pauvrement, pour arriver à Lorette, toucher les pierres de la Sainte Maison, y recevoir les sacrements, y porter les vœux, les prières de leur royal ou princier commanditaire.
Je pense que ces émissaires étaient choisis avec un soin tout particulier.
Vis-à-vis de la Vierge Marie, on envoie un personnage qui doit être d'une dignité, d'une piété exemplaire. Ce sont souvent donc des religieux, des prélats, des ermites réputés pour leur dévotion et qui vont faire le sacrifice extraordinaire de ce pèlerinage pour porter les prières et les cadeaux, les offrandes de leur maître d'une cour étrangère. Eh bien, l'accumulation des offrandes, des ex-voto, des pièces d'orfèvrerie, des habits précieux, des figurations de membres guéris par l'intercession de la Vierge sous la forme d'ex-voto, de métal précieux qui peuvent être simplement des maquettes d'ivoire, mais d'argent ou d'or. Tout ceci constitue une thésaurisation extraordinaire qui est gardée dans les coffres et derrière les remparts. La ville est puissamment fortifiée pour résister justement à d'éventuels brigands prédateurs et aux raids sur l'Adriatique des Turcs ou des Barbaresques. Donc il y a une forteresse qui effectivement protège ces immenses trésors accumulés. Les rois de France y ont contribué, puisque, alors, il faut énumérer quelques-uns d'entre eux, qui sont loin d'être obscurs. Henri III, sans doute guidé par la piété de sa mère, Catherine de Médicis. Donc, Catherine de Médicis avait elle-même fait des dons à Lorette, lorsqu'elle était reine de France, pour la mémoire aussi de son mari Henri II. Henri III, n'ayant pas de successeur, avait espéré pendant très longtemps et prié auprès de Notre-Dame de Liège, de Notre-Dame de Chartres, pour obtenir un héritier. Et en 1584, il avait, le dernier moment avant de se résigner à accepter les droits éventuels du prince de Navarre. En 1584, il avait donc envoyé un magnifique objet d'orfèvrerie, d'or et de lapis-lazuli et de diamants, qui était donc placé au pied de la Vierge de Lorette. Ensuite, une autre reine de France et originaire de cette famille des Médici, c'est Marie de Médicis, épouse de Henri IV, qui inculque à son fils Louis XIII la même dévotion. Et on en est certain, puisque dès 1620, le jeune Louis XIII, angoissé par une maladie ponctuelle de son épouse, la jeune Anne d'Autriche, fait un vœu à Notre-Dame de Lorette, et non pas à Notre-Dame de Paris, à Notre-Dame de Chartres, à Notre-Dame de Liesse, qui sont les dévotions françaises parmi tant d'autres, mais à Notre-Dame de Lorette. Et de rechef, en 1630, alors qu'il est à Lyon, malade, et c'est peu avant l'épisode qu'on appelle la journée des dupes, et où effectivement sa santé, sa survie étant en cause, on peut craindre qu'un problème de succession se pose. Dans ce moment dramatique pour lui et pour le royaume, Louis XIII fait un vœu, là encore, à Notre-Dame de Lorette, et en se plaçant sous l'invocation, dans la filiation de son glorieux ancêtre, Saint Louis, Louis IX, dont il porte le nom, puisque il y avait eu, sur un siècle environ, une interruption de ce nom. C'est Louis XII au début du XVIe siècle, et c'est à dessein que son père, Henri IV, a choisi ce nom de Louis pour rattacher à cette branche et au souvenir de Saint Louis.
Pourquoi Saint Louis, qui est mort en 1270, était dans ce sanctuaire qui, lui, est arrivé à la fin du XIIIe?
Eh bien, parce que Louis IX, en croisade, est passé à Nazareth et y a fait ses Pâques une certaine année. Et cet épisode est représenté sur une fresque difficile à dater, où on voit un souverain sorti des fers, de la prison qu'il avait subie aux mains des infidèles, et portant un sceptre agenouillé, donc, au pied de la Vierge Marie. Et cette fresque, plus ou moins effacée, a été ravivée en 1625. Les pèlerins la voyaient, et alors la tradition voulait que, puisque on croit que les murs de la Sainte Maison ont été transportés par les airs ou par la mer jusqu'à Lorette, cette fresque aurait été antérieure à la translation, aurait été transportée en même temps que les briques des murs, et serait un témoignage effectif du passage de Louis IX à Nazareth. Alors, voilà, c'est les éléments de la légende.
Enfin, toujours est-il que ça fait dévotion pour Louis XIII, c'est dévotion mariale, mais dévotion aussi à son ancêtre.
Il y a une signification politique à laquelle Richelieu était tout à fait attentif, puisqu'il a encouragé, dans les années 1630, Louis XIII à envoyer donc d'autres offrandes à Lorette en mémoire de Saint Louis, dont on célébrer l'anniversaire le 25 août, on le célèbre encore, dans la basilique de Lorette, au nom de la France. Et alors on arrive à un autre épisode plus direct, c'est en 1637, Louis XIII et son épouse Anne d'Autriche, mariés depuis 1615, n'ont toujours pas d'enfants, et n'ont même pas de rapports conjugaux, sans doute depuis fort longtemps, et ils vivent pratiquement séparés, le roi à la guerre, à la chasse ou dans ses conseils, et la reine enfermée au Louvre ou à Saint-Germain. Il se trouve que la tradition veut, mais enfin là c'est plus que la tradition, c'est des témoignages des mémorialistes de l'époque, on a toute la critique nécessaire. La nuit du 5 décembre 1637, alors que Louis XIII, revenant de chasse du côté de Crosne, à côté de la forêt de Sénart, et voulant se rendre dans la même nuit dans un autre petit château au milieu des bois, mais celui-là situé à l'ouest, celui de Versailles, il vient à traverser Paris, d'est en ouest, Il est pris par une averse épouvantable. Ses appartements ne sont pas prêts au Louvre et un capitaine des gardes du corps affecté à la garde personnelle de la reine, François de Guitaut, lui suggère de lui demander l'hospitalité des appartements de sa femme. Et donc le roi s'y résigne et va passer la nuit avec son épouse. Et en février 1638, à la stupéfaction générale, à l'enthousiasme des Parisiens et de l'ensemble des sujets du roi de France, on apprend que la reine est enceinte. Anne d'Autriche ne pense pas que ce soit les hasards des éléments ou des humeurs de son mari qui lui vaille le bonheur d'être mère. Elle l'attribue à l'intercession, aux prières d'un Augustin Deschaux et de Paris qui s'appelle le frère Fiacre, et puis aux Carmélites de Paris aussi, enfin à tout un concert de prières, spécialement au frère Fiacre, qui est un dévot de Notre-Dame de Cotignac, en Provence, où il est envoyé pour exprimer la gratitude de la reine pour sa grossesse. Et bien sûr, elle attend un enfant, mais ce qui importe pour la succession au trône, c'est que ce soit un fils. Et là, la reine va faire un vœu secret à Notre-Dame de Lorette. Elle a, pendant ces années d'infécondité, visiter une trentaine de sites de mariaux différents en France, aux environs de Paris. Et plus que tout autre sanctuaire français, c'est donc à la Vierge, à la Madone de Lorette, qu'elle accorde les vœux qu'on dira suprêmes, les plus solennels. Le 5 septembre, c'est-à-dire exactement dans la durée
des 9 mois
de grossesse, elle accouche d'un fils et Louis XIII et Anne d'Autriche décident, dans les jours suivants ou dans les heures suivantes, je ne sais pas exactement, d'envoyer un extraordinaire témoignage de gratitude auprès de la Vierge de Lorette. Alors, le choix est fait d'un sculpteur des plus réputés de son temps, Jacques Sarrazin. Sarrazin a pour commission de dessiner et de jeter ensuite en statue un ange de la taille d'un adolescent. Cet ange étant revêtu de lame d'argent et portant dans ses bras un poupon en or à la dimension du dauphin, de l'enfant qui vient de naître. Alors, cette œuvre extraordinaire qui demande un investissement très considérable va mettre plusieurs années. C'est seulement à l'été 1642 que l'œuvre étant en voie d'achèvement, on se met en peine de chercher un personnage qui soit capable de porter avec honneur cette offrande à Lorette. Et c'est Richelieu ou Louis XIII qui désigne Paul Fréard de Chanteloup. À l'époque, il était un des secrétaires du secrétaire d'État à la guerre, Sublé de Noyers. Alors Paul Fréard de Chanteloup reçoit cette mission, il va un certain temps, dans la mesure où il voyage lentement, par poste et par sur des galères, il arrive à Civitavecchia, puis à Rome, en décembre 1642, c'est-à-dire peu après la mort de Richelieu. Et puis, dans le mois suivant, Paul Fréard de Chanteloup a apporté son offrande à Lorette, où elle va être placée au pied même de la statue de la Vierge, ce qui est l'honneur le plus insigne, puisque le roi de France, qui est après tout le souverain le plus puissant de l'Europe de ce temps, a la faveur de voir son cadeau, son offrande, sa prière, située là, au plus près de la Vierge miraculeuse, de sa représentation en statue. Revenu à Rome quelques semaines plus tard, Fréard de Chanteloup a la mauvaise surprise d'apprendre que ses lettres de change ne sont plus valables parce que Sublé de Noyers, ayant suggéré imprudemment à Louis XIII de céder, Louis XIII qui vit ses derniers jours, de céder, ce qui serait inéluctable, la régence à son épouse Anne d'Autriche. Louis XIII, espérant encore survivre et se méfiant toujours de son épouse, chasse immédiatement Sublé de Noyers, de sorte que il sera remplacé par le Tellier, mais enfin, les pouvoirs qu'avait reçus Fréard de Chanteloup se trouvent annulés, et il est obligé de se sauver très vite de Rome pour échapper aux créanciers et d'aller se retirer très discrètement dans ses domaines du Maine. Alors, que reste-t-il à Lorette? Eh bien, il reste tout de même cette magnifique statue que tous les pèlerins français vont admirer au XVIIe et XVIIIe siècle. Fréard de Chanteloup ne disparaît pas complètement. Il est très connu dans les annales de l'histoire de l'art, car c'est lui qui va être l'introducteur, enfin l'accompagnateur de Poussin. Il en est l'exécuteur testamentaire, mais il est aussi le compagnon de Bernin en 1665, dans le voyage qu'il vient faire en France. Et c'est le journal dit du Bernin a été rédigé par Paul Fréard de Chanteloup, c'est ce même personnage. Alors ça, c'est quelque chose qui était, ce que je viens de vous raconter, là, n'était pas connu. Je revendique la paternité de cette redécouverte, oui, de cette mission de Fréard de Chanteloup, qui n'était pas connue des historiens d'art, bien que ce soit pourtant un phénomène, enfin un événement très exceptionnel. Alors, ensuite, le destin de la statue, on sait que tout au long du XVIIe et XVIIIe siècle, elle est admirée par tous et spécialement par les pèlerins français. Et puis, à la fin du XVIIIe siècle, l'expansion militaire de la France révolutionnaire et du régime du Directoire amène les armées françaises à franchir la frontière du territoire pontifical avec le but très explicite d'obtenir des indemnités de guerre, d'exiger obtenir du pape le financement des opérations militaires. Et Lorette fait partie des cibles prioritaires de l'armée qui est conduite par un général fort connu, le général Bonaparte, qui, en février 1797, confisque le trésor de Lorette. Et 80 chariots de pièces précieuses, d'or, dont beaucoup de toutes ces donations qui formaient le trésor de Lorette, vont être acheminés sur Paris. Alors, l'ange avait été transporté par les pontificaux à Rome, mais là, il va être confisqué par Monge, le mathématicien
Gaspard Monge.
Qui est commissaire du directoire et qui est chargé de faire l'évaluation de l'indemnité qu'on veut exiger du pape. Donc, tout ceci va être envoyé à Paris et fondu. Alors, il faut dire encore peut-être un mot de ce qui s'est passé en 1797. La statue de la Vierge
est venue à Paris, elle aussi.
Est transportée à Paris. Elle était exposée au cabinet des médailles entre une Diane d'Éphèse et une momie égyptienne comme exemple des superstitions. Le premier consul, Bonaparte, qui avait directement organisé le pillage, le sac de Lorette, souhaitait manifester du respect envers le culte proprement dit. Donc, en même temps qu'était négocié le concordat, auquel Bonaparte attachait beaucoup d'importance, bien entendu, puisqu'il s'agissait de rétablir la paix religieuse en France, avant même donc la conclusion du concordat, Napoléon Bonaparte, premier consul, a décidé le renvoi de la statue à Rome, puis à Lorette, ce qui s'est fait triomphalement, donc dès le début de 1802.
Quel est le destin actuel de Lorette ?
Alors, il y a eu malheureusement d'autres avatars. En 1921, un anarchiste a posé une bombe à l'intérieur de la Santa Casa, qui a brûlé en partie, notamment la statue revenue de Paris, a brûlé en 1921, elle a été remplacée à l'identique, mais il est certain qu'elle avait été détruite. Et puis dans les années 70, dans une nuit, le trésor reconstitué, puisqu'il se reconstitue constamment, il y a des fidèles qui font des offrandes, a été pillé par des gangsters, et qu'on n'a jamais retrouvé. Et bon, alors voilà, ça fait partie des faits divers, pourrait-on dire. Mais pour chasser, si vous voulez, ces sinistres épisodes, il faut dire qu'il y a, dans notre époque, une sorte de retour de l'engouement qui n'est pas nécessairement uniquement religieux pour les pèlerinages. Vous savez qu'il y a la vogue de Compostelle aujourd'hui. Et aussi, alors, donc, des pèlerinages comme Lorette. Et aussi, alors, de l'autre côté de l'Adriatique, de très nombreux fidèles, croates, slovènes, enfin slaves du Sud, venaient prier la Vierge de Lorette. Et on ne peut pas ne pas remarquer, dans l'histoire là, de la Yougoslavie, enfin des pays slaves du Sud, une dévotion mariale intense, spécifique. Le pape, d'ailleurs, est allé récemment en Croatie. Et là, le catholicisme a une prégnance et un lien avec l'histoire nationale qui est aussi fort que celui qu'on trouve, par exemple, en Pologne. Et au retour de la vogue des pèlerinages et dans la catholicité tout à fait contemporaine italienne, Lorette réunit pendant les grandes fêtes de la Vierge toujours des milliers et des dizaines de milliers. Alors, il est vrai que du côté de la France, du côté des Alpes, la légende, la tradition de Lorette est assez peu connue. Il y a l'église Notre-Dame de Lorette à Paris qui a été dont les travaux ont commencé en 1823, je crois, achevés dans les années 1830. Et qui était lié au souci qu'avaient les catholiques français, parisiens de ce temps, de marquer leur attachement au Saint-Siège dans un moment où justement son autorité était menacée de toutes parts. En dehors donc de ce coin particulier, l'ensemble du culte lorettain n'est pas passé profondément dans la piété de ce côté des Alpes. Il est beaucoup plus accusé, beaucoup plus marqué en Allemagne du Sud, en Autriche, dans les pays d'Europe centrale, la Hongrie, la Pologne, la Bohème, par exemple à Prague, où on sait qu'il y a une reproduction à l'identique du sanctuaire, enfin de l'enveloppe de marbre qui enferme la Santa Casa et de la Santa Casa elle-même à l'intérieur de ce joyau de sculpture. On en a d'autres exemples, mais c'est celui de Prague qui est des années 1630, qui est le plus achevé. On a donc des évolutions contrastées, alors que le nombre de pèlerins statistiques décroît certainement au XVIIIe siècle, à Lorette même, au XVIIIe et XIXe siècle, on le voit se répandre au-delà des mers. Et par exemple, en 1812, au Kentucky, est créée une congrégation féminine de Lorette qui a eu et qui a encore un relatif retentissement aux États-Unis.
Cette dévotion mariale que pratiquent beaucoup les femmes, pour des raisons affectives et intimes, ne peut que durer de toute façon. Parce que les émotions sont toujours les mêmes et les demandes sont toujours les mêmes.
Oui, alors si on revient, si vous voulez, à la légende originelle, l'état des recherches aujourd'hui ne tende pas, alors j'emploie des termes extrêmement prudents, ne tende pas à invalider le récit originel. Alors, ce n'est pas un article de foi, disons simplement que la possibilité d'un transfert de murs que l'on pensait être la maison de la Vierge à Nazareth à la fin du XIIIe siècle est tout à fait vraisemblable.
Merci Yves-Marie Berset.